La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Lanjou.
Bonjour à toutes et à tous. La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma est toujours en compagnie de Thibaut Dravel d'Esclapon.
Bonjour Magali.
Bonjour Thibaut, auteur de cet ouvrage La justice au cinéma, dont nous extrayons quelques films, simplement deux, puisqu'il a... vous en avez presque 20.
Il y en a 20, voilà.
20 films,
20
voilà.
Films, exactement.
À la fois cinéma états-unien et cinéma français.
Voilà, européen, avec un film britannique, Winslow contre le roi.
D'accord, voilà. Mais c'est essentiellement quand
essentiellement
même,
américain et français.
Américain voilà. Et français. Et vous vous êtes autorisé également à parler des derniers films sortis sur nos écrans, c'est-à-dire Anatomie d'une chute et Le procès Goldman.
Oui, avec un grand regret, c'est que du coup, le livre est sorti, a été sous presse quand les films sont sortis. Donc j'ai pu en parler que vraiment en quelques lignes.
En
voilà.
Quelques lignes, ouais, ce ouais. Sera peut-être l'occasion.
Pour une
de...
prochaine édition, voilà. si tout va bien. Voilà.
Ou un deuxième volume.
Un deuxième volume, voilà. Effectivement.
Nous avons donc choisi deux films de Lumet. 12 hommes en colère et le verdict. Nous avons déjà évoqué à la fois un petit peu le travail de Lumet. On n'a peut-être pas assez dit si on a dit comment il avait été appelé par Henry Fonda pour tourner son premier film qui est depuis devenu iconique, donc 12 hommes en colère. Mais on n'a peut-être pas trop parlé de son travail avec les acteurs.
Alors, oui, c'est vrai que... Mais finalement, ça ne devait pas être très simple, à dire vrai. C'est ce qu'explique aussi Lumet dans son ouvrage publié chez Capricci, Faire du cinéma. Ça ne devait pas être très simple, parce qu'il travaillait quand même avec un acteur star, comme vous l'avez déjà évoqué. Donc, effectivement, ce n'était pas forcément facile, lui étant jeune réalisateur, de s'imposer face à une star aussi forte que Fonda. Voilà. Donc, après, Lumet était quelqu'un qui était très exigeant, qui travaillait beaucoup avec ses acteurs, qui les faisait répéter, notamment dans le verdict, Newman avait un mal fou à rentrer dans le personnage de Galvin. Ils ont passé, Lumet le décrit très bien. Et du coup, ils ont énormément répété, énormément travaillé ensemble, des heures et des heures, pour arriver à ce résultat qui est incroyable dans les deux cas.
Oui, parce que dans les deux films, nous sommes avec des immenses vedettes, des immenses stars, des immenses acteurs.
Ah,
donc,
oui, clairement.
Henry Fonda pour le premier, Paul Newman pour le second. Voilà. Et je trouve que dans ce mode de travail, cette lecture du scénario, alors commencer avec les répétitions en amont, cette lecture du scénario de A jusqu'à Z,
oui, ouais.
c'est un travail de théâtreux quasiment.
Ah oui, oui, clairement, mais parce que comme on l'avait évoqué, son origine est théâtrale aussi à Lumet, donc je pense qu'il a dû aussi forcément dupliquer. Il y avait un beau dossier d'ailleurs dans Positif il y a quelques années sur Lumet et le théâtre, et donc ça l'a conduit à dupliquer quelque peu ce qu'il avait appris depuis 5-6 ans, puisqu'il n'avait que 32 ans, comme vous l'aviez dit, ce qu'il avait appris au théâtre. Voilà. Mais oui, la lecture du scénario, c'est toujours très intéressant. Mais ça se fait chez beaucoup de réalisateurs, hein, vers sa destinée, notamment, qui est aussi joué par Henry Fonda, le personnage d'Abraham Lincoln. Il y a une scène que Fonda raconte, où il va lire le scénario à haute voix, chez lui, avec John Ford. Enfin, c'est une technique assez habituelle à cette époque-là.
Donc nous avons évoqué cette justice états-unienne, la place du précédent dans le système judiciaire à travers la recherche de cas qui ont existé et dont on doit se rapprocher le plus possible pour invoquer leur manne et pouvoir ensuite obtenir gain de cause devant la juridiction. Nous avons évoqué la quasi-absence dans un rôle d'arbitre du magistrat, puisque tout repose dans le système accusatoire entre les mains des parties. Nous avons évoqué la place prépondérante dès le premier film, mais également dans le verdict des jurés,
oui.
Réunis en jury. Donc dans le premier film, évidemment, ils sont dans cette pièce en huis clos, mais dans le second, dans le verdict, ils sont, on assiste au prononcé de la décision à laquelle ils sont unanimement parvenus. Et là, il nous reste à évoquer, évidemment, le rôle des avocats, et non des moindres, donc Frank Galvin, dont nous avons parlé, interprété par Paul Newman, donc cet avocat qui était introduit dans la bonne société bostonienne,
qui a déchu à la suite d'une affaire un peu sordide entre lui et ses anciens associés. Et il était très introduit puisqu'il était marié avec la fille d'un de ses mentors.
du cabinet dans lequel, il
travaillait. Voilà, voilà, effectivement, voilà. Un beau cabinet de la bonne société de Nouvelle-Angleterre américaine. De Boston.
De Boston, ouais. Oui, de Nouvelle-Angleterre. Et puis, celui qui est toujours dans la bonne société, c'est-à-dire son adversaire, celui qui défend les intérêts de l'archevêché de Boston, propriétaire, entre autres, de l'hôpital dans lequel la jeune Déborah est maintenue en état végétatif, donc interprété par l'immense
James Mason.
Voilà. Donc nous sommes avec ces deux personnages qui vont se faire face, qui vont se faire face. Et nous allons écouter un premier extrait.
Anybody ever hear for want of a shoe a horse was lost? Who's going on vacation tomorrow? Friedman. St. Bart's, is that right?
Yes, sir.
Send Mrs. Friedman a dozen roses tomorrow morning, please, Sal. Now, wait a minute. Send her a sun lamp. Friedman, I'm sorry, but you'll have to stay. There'll be no vacations until this thing is cleared. You're all acquainted with this case. It's been on the calendar for 18 months. Now I think we have a definite court date. February the 19th. Mm-hmm. The plaintiff's attorney is one Francis P. Galvin. I trust you're all familiar with his record. And we've been expecting him to call us to negotiate. And as he did not, 5 days before we were supposed to go to court, we made him a rather generous offer, which he refused. 5 days before trial. What does that mean? I want to find out. Acquaint yourselves again with the depositions. Don't rely on the fact that we did it last year. Do it again. We shall be reviewing it here. You do it at home. You each have a full file, so know the depths. And I want you all to be here when we work with the defendants. When is that, Billy?
Wednesday evening.
Uh-huh. I want an article as soon as possible in the Globe, St. Cat's, Neighborhood Giants Serving the Community, etc. We've got it in the files. And I want something in the Herald Monday morning. Our gallant doctors, huh? Be inventive. Hmm? And television. You've got to have television. Friedman, since you're still with us, why don't you have a word with your friend at GBH, huh? Hmm. Now, to belabor the obvious for a moment, our clients are the Archdiocese of Boston, the St. Catherine Laboratory Hospital, and the doctors Marks and Towler, two of the most respected men in their profession. The thrust of this defense will be to answer in the court, in the press, and in the public mind, to answer the accusation of negligence this completely. That not only do we win the case, but we win the case so that it is seen that this attack on these men and this institution was a rank obscenity. Okay, let's get the cobwebs off. Billy?
Please turn to your page 4. We're going to start with a review of the depositions of the operating room team, the nurse anesthetist, the scrub nurse, and all those in attendance in the OR at the time of the operation.
Voilà, ce premier extrait, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Ah oui, alors c'est un extrait qui est très important, parce que là, je crois qu'il plante vraiment l'une des thématiques du film, celle de la disproportion de moyens entre les cabinets. On est dans les locaux magnifiques, pour le coup, boiserie, fauteuil matelassé, enfin vraiment, on est dans les locaux magnifiques de chez Ed Concannon, cet avocat dont nous parlions, qui est le représentant de cette classe possédante et cette élite de Boston. Concannon avertit son équipe, qu'on voit pas à l'écran, mais il y a plus d'une dizaine de collaborateurs qui sont autour de la table, et il avertit son équipe de ce que une date a été définitivement fixée. Ça faisait 18 mois que le procès était un peu en stand-by. Une date a été fixée et qu'il va falloir faire des choses. Et alors il explique que, visiblement, il a une mainmise sur ses collaborateurs, parce qu'il explique à un collaborateur qu'il pourra pas partir en vacances comme il l'avait imaginé. Saint-Barth, ce sera pour une autre fois. Donc voilà, il est en train de montrer sa puissance de frappe. Elle ne s'arrête pas là, puisqu'il explique qu'il veut un article dans les journaux. Il faut un article sur l'archevêché, il faut un article sur les deux médecins, docteur Tollet et son collègue, ces deux anesthésistes très, très réputés. Il dit qu'il faut aussi mobiliser la télé. Enfin, vraiment, je trouve que dans ces 3 minutes, c'est toute la puissance de frappe de Concannon qui s'exprime. C'est incroyable. Voilà. Gavin est loin de tout ça. Ouais.
Le droit est un accessoire.
Là. Ah, bah là, pour le coup, oui. Là, en tout cas, c'est d'abord la puissance de frappe et ensuite on voit si on est bon en droit ou pas. Hein. Oui.
C'est ça. Et je trouve là aussi, on n'a pas l'image, mais on entend le parquet qui craque.
Ah,
on
parle
de vieilles boiseries, ouais. Donc on est dans. Et puis il y a des vitraux.
Il y a des vitraux. On est clairement dans un lieu qui rappelle qu'on est face à des gens qui sont là depuis des siècles. Voilà, depuis au moins le 17e.
Ouais. C'est ça, oui.
C'est la Nouvelle-Angleterre.
La Nouvelle-Angleterre, oui. Et puis le valet, le majordome qui arrive, qui pousse son chariot,
exactement,
où il y a les petits sandwichs,
voilà,
les petits encas.
Il pousse son café,
voilà,
le
voilà,
sert.
Oui, c'est quand même un peu plus chic que le déjeuner sur son plateau repas du juge. Hein.
Ah oui, c'est plus chic.
Il y a un
chic.
Peu plus de prestance.
Oui, mais il écrase aussi finalement le juge. C'est pas que Gavin, c'est le juge aussi.
C'est ça. Et cette force de frappe, eh bien, on va la retrouver dans un nouvel extrait.
What is your name, please?
Dr. Robert Towler.
You were Deborah Ann Kay's doctor?
No, actually, she was referred to me. She was Dr. Hagman's
Don't
patient.
Don't equivocate. Be positive. Just tell the truth. Whatever the truth is, just tell that. You were her doctor.
Yes.
Say it.
I was her doctor.
You were her anesthesiologist at the delivery on May the 12th, 1976.
Well, I was one of a group of medical...
Now, answer affirmatively, simply, please. And try to keep your answers down to three words. You were not part of a group. You were her anesthesiologist. Isn't that so?
Yes.
You were there to help Dr. Marks deliver the child.
Yes.
Anything special about the case?
Well, when she had been...
When Debbie... Thank you.
Thank you. When Debbie had been under...
Remember that, Dr. Teller. Who else was with you in the operating room?
Miss Nevins, nurse anesthetist. Dr. Marks, of course. Maureen Rooney, the obstetrical
nurse. And what did these
nurse.
People do when her heart stopped?
We went to Code Blue.
Code Blue? Do you mind explaining to the jury what that means?
It's a common medical expression. It's a crash program to restore the heartbeat. Dr. Marks cut an airway in her trachea so she could get oxygen. She and the baby. Miss Nevins, who...
Why wasn't she getting oxygen?
Well, many reasons, really.
Tell me one.
She'd aspirated vomitus into her mask.
She threw up in her mask. Now, cut the bullshit, please. Just say it. She threw up in her mask.
She threw up in her mask.
Therefore, she wasn't getting oxygen and her heart stopped.
That's right.
And what did your team do then?
Well,
you brought 30 years of medical experience to bear, isn't that what you did?
Yes.
A patient riddled with complications, with questionable information on a medical chart.
We did everything we could.
To save her and to save the child.
Yes.
You reached down into death,
My
didn't
God,
you?
We tried to save her. You can't know. You can't know.
Good. Good. Now tell us.
Well, this patient.
Alors, nous sommes toujours dans le cabinet d'Ed Concannon. Racontez-nous un petit peu ce qui s'y passe.
Alors, c'est effectivement, nous sommes encore chez Concannon. Concannon a la possibilité matérielle, lui, d'organiser des sortes d'entretiens anticipés, enfin d'interrogatoires anticipés, j'y reviendrai, sur ses principaux, enfin ceux qui va traduire devant, qui va attirer devant la barre. Donc voilà, il décide d'écouter, d'auditionner le docteur Toller, de le pousser dans ses derniers tranchements, de vraiment d'essayer de voir quels sont ses défauts. Faut avoir les moyens de le faire. Et ça met en lumière aussi, ce qu'on verra plus tard dans le procès, ça met en lumière la force incroyable des cross-examinations aux États-Unis, de ces interrogatoires croisés, où comme on est dans une procédure où de toute façon la vérité va sortir de l'audience, il faut absolument qu'on arrive vraiment à faire en sorte que ce que vont dire les témoins, ça ait une résonance très importante. Et Concannon, lui, a la possibilité de se préparer. Il a la possibilité de le faire. Et donc il le pousse à bout. C'est pas grave, puisque là, finalement, c'est qu'un essai. Donc il le pousse à bout, et comme ça, il arrivera, le jour de l'audience, à faire sortir le mieux pour sa cause de ce témoin-là, qui est le témoin capital, puisque c'est celui qui d'ailleurs est accusé. Mmh. Donc il n'est pas vraiment un témoin du reste.
Mais qui est convoqué en tant que témoin.
Qui est convoqué en tant que tel, puisque voilà, effectivement.
Voilà. Ouais. Voilà. Est-ce que vous
puisque c'est l'archevêché qui est officiellement attiré, qui est assigné en justice.
Et ce médecin est ici préparé, hein. C'est une séance d'entraînement pour être capable de répondre à des questions précises.
Exactement.
Avec un langage qui soit compréhensible par tous les jurés.
Tout à fait, il faut parler aux jurés, à chaque fois on le fait répéter, expliquer, reformuler ses phrases, il faut s'exprimer au juré. C'est très fréquent aux États-Unis, la technique d'Ed Cochanan. C'est extrêmement fréquent, mais alors ça soulève le coût de la justice, parce que du coup, ça coûte extrêmement cher d'organiser cela. C'est les heures qui sont facturées. Là, Cochanan le fait seul, avec tous ses collaborateurs, mais il ne le fait pas avec l'assistance d'experts psychologiques, etc. Je pense qu'à cette époque-là, la pratique n'était pas aussi développée. Aujourd'hui, maintenant, on fait ça, non plus dans le cabinet, enfin, on le fait dans le cabinet, mais on s'entoure de spécialistes comportementaux, etc. Donc ça coûte incroyablement cher. Calvin ne peut pas le faire. On le verra avec sa témoin clé, il n'arrive pas à le faire.
Alors oui, puisque vous nous parlez de l'autre avocat, donc celui interprété par Paul Newman, comment fait-il, lui, pour se préparer parce qu'il a réclamé le procès, hein, là où vous pouvez avoir une transaction financièrement très intéressante. Il a préféré renoncer à celle-ci pour aller au procès.
Exactement. Alors, lui, il fait un peu comme il peut. Alors, il a préféré renoncer à celle-ci pour aller au procès, effectivement, parce qu'il avait aussi quand même, sans dévoiler l'intrigue du film, mais il avait quand même l'assurance d'avoir un médecin très connu, le docteur Gruber, qui devait témoigner au procès, en expliquant que ses confrères avaient fait n'importe quoi. Sauf que ce témoin lui fait défaut, il est remplacé par un autre médecin, qui est moins connu évidemment que le docteur Gruber, qui est clairement peut-être un cran en dessous en termes de notoriété médicale, pas forcément de compétence, mais de notoriété médicale. Donc il se prépare comme il peut parce qu'il n'a pas d'argent. Il est aidé par qui? Par Morrissey, par cette personne qu'il rencontre dans un bar, Charlotte Rampling, dont on s'apercevra après qu'elle n'est pas si acquise à sa cause que cela. Donc il prend un médecin qui a l'air préparé aux audiences, parce qu'il a l'air d'écumer. Le médecin qu'il choisit, il écume les audiences, donc comme s'il était déjà préparé, mais ça se retourne contre lui aussi. Bref, clairement, il n'a pas les moyens de Cochanan. Pas du tout.
Oui, on voit par un montage en parallèle, hein, on voit la préparation du côté des médecins grâce à Ed Cochanan, et puis on voit en quelque sorte l'amateurisme, la débrouillardise, l'absence de moyens du bord la petite équipe de Calvin, hein, c'est-à-dire ils sont deux, trois maximum.
Maximum, il y a quand même une scène, je ne sais pas si vous vous souvenez de celle-ci, elle m'a refrappé en revoyant le film avant-hier, il y a quand même une scène où il est obligé de forcer la boîte aux lettres de cette infirmière pour pouvoir avoir l'adresse de celle qu'il cherche.
Oui, peut-être. Oui.
Il vole en quelque sorte une lettre pour avoir. Donc c'est quand même des moyens de fortune qui frisent évidemment. Et quand je dis friser, je suis gentil, l'illégalité.
Oui, et puis il n'est pas. On parlait de Erin Brockovich, qui était donc l'assistante et qui allait faire toutes ces recherches d'éléments. On a régulièrement comme ça des assistants de cabinet d'avocats qui vont chercher les pièces, qui vont chercher les preuves, qui vont chercher les témoins. Là, il fait tout lui-même. À un moment donné, il se déplace. À New York.
Il se déplace à New York, il fait tout absolument tout lui-même, il n'a pas d'enquêteur, il n'a pas l'argent pour missionner un enquêteur, puisqu'il a refusé les 210 000. Ouais.
Et puis physiquement, ses locaux sont réduits à la plus simple expression.
Oui.
C'est une soupente dans laquelle se trouve son petit cabinet.
Oui, il y a même une analyse, effectivement, non, c'est exactement ça, il y a une analyse d'un auteur américain qui le bureau de Galvin, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais effectivement, est arrondi, on voit une espèce de fenêtre en demi-lune, et un auteur américain disait, mais c'est finalement l'expression de ce que sa vie est en ce moment, crépusculaire, etc. C'est assez vrai. Lui, il est dans un espèce de bureau de fortune.
Qui lui sert à tout. Hein. On a l'impression qu'il vit là-dedans.
Qui vit là-dedans, il reçoit les gens. C'est sûr que ce n'est pas les
beaux... Il a tellement peu de clients que
c'est ça. Ouais. C'est pas les beaux endroits de chez Cochanan.
On préférerait aller boire le thé chez Cochanan. Ce serait sûrement plus agréable avec les petits biscuits qui vont avec. Mais cette répétition, ou ces répétitions, puisque là, nous n'en voyons qu'une, mais il y en a peut-être d'autres... vont se poursuivre et vont préparer ce qui va arriver le jour de l'audience. Donc l'audience débute et nous pouvons écouter un extrait qui remet en selle en quelque sorte le magistrat, hein, dont on a dit qu'il était surtout effacé, qu'il était arbitre, puisque ce sont les parties qui ont le beau jeu, mais malgré tout, de temps en temps, le magistrat peut être là.
Negligent. Thank you. I'm not through questioning, Your Honor. With all due respect, if you're going to try my case for me, I wish you wouldn't lose it. Thank you. I think that's enough for this morning. I'll see counsel in my chambers. Now, please.
All rise. Court is adjourned until 1:00.
I'm going to write to the board of bar overseers about you today, fella. You're on your way out. They should have kicked you out in that Lillibridge case. Now, this is it today.
I'm an attorney. I'm on trial before the bar, representing my client. My client. You open your mouth, you're losing my case for me.
Now, listen to me,
Phil. No, you listen to me. All I want on this trial was a fair shake, okay? Push me into court 5 days early. I lose my star witness, and I can't get a continuance, and I don't care. I'm going up there, I'm going to try it, I'm going to let the jury decide. You know, they told me about you. Said you're a hard ass, you're a defendant's judge. Well, I don't care. I said to hell with it, to hell with it.
Look, Galvin, many years ago...
Come on. Hey, don't give me that shit about you being a lawyer, too. I know about you. You couldn't hack it as a lawyer. You were a bag man for the boys downtown, and you still are. I know about you.
Are you done?
You're damn right I'm done. I'm going to ask for a mistrial. I'm going to request that you disqualify yourself from sitting on this case. I'm going to take a transcript of the trial to the Judicial Conduct Board and ask that they impeach your ass.
You aren't going to get a mistrial, boy. We're going back there this afternoon, and we're going to try this case to the end. Now, you get out of here before I call the bailiff and have you thrown in jail.
Nous sommes revenus dans le bureau du juge. Expliquez-nous.
Alors voilà, cette scène, elle fait suite à un incident d'audience où le juge a montré son incroyable partialité, puisqu'il a posé une question au médecin conseil témoin de Galvin, qui démontre que le cas est fait pour le juge. Finalement, le témoin est presque obligé de dire qu'il n'y a pas eu de négligence, c'est ce qui est un problème. Donc Galvin, d'ailleurs, par une très jolie phrase, je trouve, s'énerve contre le juge à l'audience déjà, en lui disant « Bon, bah écoutez, si vous comptez plaider mon cas, essayez de pas le perdre au moins. » Et après, il se retrouve dans le cabinet du juge, où on a l'impression que Galvin va se faire... va essuyer des remontrances, mais c'est Galvin qui s'énerve contre le juge, et donc s'ensuit un débat vraiment d'une belle violence verbale, qui est d'ailleurs, heureusement qu'on a passé la première scène où on voit le jury avant, parce qu'on se dit, au moins on sait qu'à la fin, ce juge va avoir son bec cloué, ce qui est quand même assez rassurant, parce que je trouve que ça montre vraiment que le juge, là, sous couvert de la procédure américaine, qui normalement devrait être un peu en retrait, l'est pas du tout, il y a clairement un problème, il est totalement partial. Et il y a une phrase, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui revient un peu à ce qu'on disait quand on dit qu'ils font partie du même monde. À un moment donné, le juge, j'essaie de lui dire, oh non, mais moi aussi j'ai été avocat. Et Galvin lui dit, oui, mais je sais bien ce que vous étiez comme avocat, vous étiez l'avocat pour ces boys de Downtown. Donc du coup, pour cela, encore une fois, donc c'était le même que Concannon, de toute façon. Donc ils sont du même clan, ça c'est sûr. C'est une scène qui est effroyable, je trouve, par la partialité du juge Hoyle, vraiment.
Elle est effroyable de ce point de vue-là, mais elle est intéressante parce que, à la fois, dans la fin de la séquence, enfin, par le début par lequel nous l'avons écouté, c'est-à-dire dans la salle d'audience, on sent la voix de Galvin qui est une voix lasse. Et quand il est dans le bureau du juge, pareil, ouais. Il a le souffle court, il a la voix lasse. Ouais. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de force qui émane de lui. Alors, d'un point de vue, évidemment, sonorité, puisque là, il s'impose. Mais en même temps, il y a de la conviction, il y a de la détermination. Et ça y est, là, il a retrouvé possession de ses moyens, il ne se laissera plus faire.
Oui, il y a de la conviction chez Galvin, c'est vrai. Et ça tient au fait que, vraiment, je pense qu'il ne faut pas prendre Galvin comme pour un opportuniste. Ça n'en est vraiment pas du tout un. Effectivement, comme certains dans le film le prennent au début, pas du tout.
Parce qu'il est au début.
Au début, bien sûr, mais là, pas du tout. Il est devenu vraiment, quand il s'est rendu compte des souffrances de sa cliente, il est devenu acquis à sa cause, honnêtement. Et donc, ça le fait bondir de ses gonds, sortir de ses gonds dans le cabinet du juge quand il voit qu'il y a une vraie injustice. Ouais. Parce que là, c'est de l'injustice qu'on voit. C'est ça qui est assez incroyable, je crois, dans cette scène.
Et c'est ça qui le motive. Vaincre l'injustice et aller jusqu'au bout de son combat qu'il considère comme juste.
Oui, mais il cherche, d'ailleurs, dans sa plaidoirie finale, il le dit, il cherche ce qui est juste, Galvin. Ouais.
Ce qui nous amène, c'est la transition, eh bien à cette fameuse plaidoirie finale avant que le jury se retire pour délibérer.
Well, you know, so much of the time we're just lost. Say, please, God, tell us what is right. Tell us what is true. I mean, there is no justice. The,
The rich win, the poor are powerless. We become tired of hearing people lie. And after a time, we become dead. A little dead. We think of ourselves as victims. And we become victims. We become weak. We doubt ourselves, we doubt our beliefs. We doubt our institutions. And we doubt the law. But today you are the law. You are the law. Not some book, not the lawyers, not a marble statue, or the trappings of the court. See, those are just symbols of our desire to be just. They are, in fact, a prayer. I mean, a fervent and a frightened prayer. In my religion, they say, act as if you had faith. Faith will be given to you. If. If we are to have faith in justice, we need only to believe in ourselves and act with justice. See, I believe there is justice in our hearts.
Petite plaidoirie au sens vocal du terme. Hein. Il n'y a pas d'effet de manche, de diatribe fin. On sent un homme qui est épuisé.
Mmh, oui, c'est vrai. Il plaide en mode mineur sur la forme, mais en mode majeur sur le fond, et effectivement. Mais sur la forme, c'est sûr que ce n'est pas forcément Denzel Washington dans Philadelphia, mais ça reste, je trouve, l'une des plus belles plaidoiries de représentées au cinéma. Il est extraordinaire, Paul Newman. D'abord, moi, je trouve que formellement, il installe son propos, parce qu'il joue beaucoup sur les silences, comme vous l'aviez évoqué dans ce film, de toute façon. Il installe son propos. Et je trouve qu'il investit progressivement le jury de sa charge, de la noblesse de la tâche qu'ils vont avoir à mener. Il commence quand même par dire qu'on doute tout le temps, on peut douter dans la loi, on peut douter dans les institutions, et que c'est précisément ça qui crée parfois une sorte de confusion. Mais eux, là, aujourd'hui, sont la loi. Et c'est pas les livres, c'est pas cet horrible statut, c'est eux qui sont la loi. Donc je trouve qu'il parvient, le tour de force, de les investir de la solennité du devoir qu'ils vont avoir là, dans la chambre, qu'on ne verra pas, à la différence de 12 hommes en colère. Ça, c'est génial comme idée.
Ouais. Il le dit deux fois.
Ouais. Pour l'anecdote, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on voit Bruce Willis, c'était l'un de ses prenants le public quand il plaide, c'était l'un de ses premiers apparitions en tant que figurant. Voilà.
D'accord.
Ouais. C'est une plaidoirie incroyable, et très très bien faite.
Ouais. Il parle de la justice dans nos cœurs,
effectivement. Il l'avait déjà un petit peu dit lors de son dîner avec Charlotte Rampling, que pour lui, ce qui était important, c'était que le jury ait l'impression que ce soit juste, etc. Et donc, il le redit là, en fait. Et c'est très vrai. L'essentiel, c'est que le combat soit juste, et qu'il faut qu'ils agissent en tant qu'hommes justes, hommes et femmes justes.
Mais au début, on se demande s'il va réussir à plaider. Hein. Il est tassé sur son siège, son compatriote des bons et mauvais jours, son ami Mickey Morrissey le regarde en se disant « va-t-il se lever plaider ?» Ou « va-t-il rester scotché sur son siège
?» Faut dire qu'on est face à un avocat qui a quand même tout eu. Je veux dire, il a perdu son témoin principal, son témoin clé, la jeune infirmière, était géniale, c'était une très bonne idée, mais malheureusement qu'en Canada, là, quand même, voilà, un juge contre lui, enfin bon, bref, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Ouais. Et puis une incertitude du côté des jurés.
Effectivement.
Donc, puisqu'on a vu 12 hommes en colère, donc on sait très bien que ça peut mal tourner.
Ça peut mal tourner, ça peut basculer.
Oui. Et puis quand il se rassoit à la fois, il a mené son combat jusqu'au bout.
Ouais, exactement.
Donc il est épuisé par ce combat, parce qu'il y a toujours cette idée, ce souffle court, cet épuisement physique et mental l'on ressent.
Ah oui, je suis très d'accord avec l'image. Il a fait son devoir d'homme juste, son combat juste, et maintenant il s'arrête, mais il est fatigué.
Il est fatigué.
Toute la tension du procès retombe.
Et il y a son ami qui lui met c'est à la fois, c'est bon, tu as fait ton travail, et en même temps, tu étais très bien. Il y a tout qui est mêlé dans ce petit.
C'est une très belle scène,
toute l'amitié passe là.
Complètement.
Et donc là, voilà, on retrouve la place importante qui est dévolue au jury, qui va se retirer et qui va pouvoir, à partir de tous les éléments qu'il a entendus ou qu'il a dû soustraire de l'audition sur ordre du magistrat, va pouvoir faire son miel de tous ces éléments et arriver à un verdict.
Et 30 ans après, la boucle est bouclée pour Lumet. 30 ans après, encore une fois, le jury permet de rétablir la situation, de rétablir le caractère juste de la situation. C'est ça qui est génial, je trouve, dans la comparaison de ces deux films.
Et puis l'idée aussi d'un homme seul qui est doté de ses convictions, de ses doutes aussi, de sa personnalité qui n'est pas forcément d'un seul tenant, qui à chaque fois va pouvoir s'élever contre une machinerie qui était un peu emballée, voire même bien grippée.
Cette thématique de l'homme seul, de l'individualité contre le groupe est quand même assez fréquente chez Lemaitre, même dans ses films non consacrés à la justice. Et là, ça se sent très bien dans les deux films.
Oui. Et que les institutions, malgré leur faillibilité, ont encore leur utilité.
Totalement. Et il faut des personnes qui élèvent la conscience, qui alertent sur ça, précisément. Ce que fait Newman.
Y a-t-il des femmes dans son cinéma, comme ça, qui est ce rôle de moteur, de femme seule, mais contre le groupe, mais qui ont raison avant tout le monde?
Alors, à ma connaissance, pas énormément. Il faudrait que je pour ne pas répondre trop rapidement, il faudrait que je réfléchisse. Mais en film de justice, non.
Policiers
Non. Je réfléchis ni de policier, parce que même dans The Offense, c'est pas un homme. Non, c'est vrai. Il faudrait reprendre le cinéma de Lemaitre de manière assez exhaustive pour voir la place de la femme dans son cinéma. Et ce serait intéressant.
Parce qu'il y a un autre grand cinéaste, Richard Fleischer, avait un intérêt pour les rôles des femmes. Et la place des femmes, et la place des enfants, etc. Je le trouve moins dans le cinéma de Sidney Lumet.
Oui, clairement, mais il y aurait de toute façon un travail sans doute académique à refaire sur la place des femmes dans le cinéma de justice, qui clairement a longtemps été, pour les raisons dramatiques que l'on connaît, malheureusement mise de côté.
En tout cas, merci Thibault de Ravel d'Esclapon de ce cheminement à travers le cinéma états-unien, les cinémas de prétoire, et puis ces deux grands films de Sidney Lumet.
Merci beaucoup Maëlie, merci.
Merci Marine Hersinger pour votre enregistrement, vos enregistrements, et puis conseil à tous les auditeurs et les auditrices. Allez voir des films, allez revoir ces deux films de Lumet, et puis même toute sa filmographie, on pense à Serpico, Un après-midi de chien, etc. Mais c'était pas l'objet de ces émissions aujourd'hui. Et puis suite pour de prochaines aventures cinématographiques. Merci à toutes et à tous.
Merci.
Au revoir.